Allô? Ouais, bonjour. Alors, moi, je ne suis pas du coup un chercheur, je suis vraiment un praticien. Donc, mon nom, c'est Nicolas Becker. Donc, je fais du son pour les films depuis maintenant 35 ans. Et puis aussi, à côté de ça, de la musique. Je travaille avec des artistes, des plasticiens, des danseurs, plein de gens différents. Et donc je suis là plutôt pour vous parler un petit peu de ma relation avec l'IA, c'est-à-dire ce que j'ai rencontré moi dans ma pratique de travail. La première fois que j'ai rencontré cet objet étrange, c'était pour une installation sonore que je faisais au MoMA avec une musicienne qui s'appelle Arca. Et du coup, l'idée, c'était avec l'artiste Philippe Pareno, c'était vraiment de faire une installation et une musique qui pouvait réagir à la couleur du ciel. Voilà, une sorte de donnée très poétique. Et donc, en fait, j'ai rencontré ce garçon qui s'appelle Lex, c'est son nom, L-E-X, avec qui maintenant on a monté un label et on travaille beaucoup ensemble. Mais lui, il venait de l'ingénierie du son. Il avait fait beaucoup d'albums en Angleterre avec des gens comme Damon Albarn, Radiohead, enfin plein de gens assez chouettes. Et du coup, il en avait eu à un moment donné un peu marre de l'industrie et de la musique, et il a fabriqué une sorte d'outil que je vais vous montrer, qui s'appelle Bronze AI, qui est un outil qui permet en fait de créer des variations multiples d'un contenu sonore. C'est quelque chose qu'on a utilisé de manière très différente, à la fois pour pouvoir produire des variations musicales sur des installations audiovisuelles, qui du coup varient en fonction de data externes, enfin de input de sensors par exemple. Ça peut être la couleur du ciel, l'humidité, la vitesse du vent, enfin, tout un tas de données qu'on peut imaginer, qui sont traitées et ensuite envoyées en input dans ce logiciel qui s'appelle Bronze. Et ce logiciel qui s'appelle Bronze, en fait, il ne va pas générer du contenu, mais c'est par contre c'est créé autour d'un modèle. Ce modèle, c'est créé autour de... En fait, il va travailler avec les gens avec qui il travaille, les plasticiens, les artistes, il va essayer de comprendre leur langage, leur manière, les manières qu'ils ont d'associer des images, des sons. Pour des musiciens, des structures temporelles précises, des patterns, des développements harmoniques, etc. Et il va, tout en travaillant avec l'artiste, il va vraiment essayer de construire un modèle autour de la manière dont un artiste pense à un morceau ou à une pièce en général. Et du coup, on fait beaucoup, beaucoup de travail comme ça, et à un moment donné, on arrive à trouver une forme qui est très intéressante. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que ça fait produire une grande sérendipité, merci. Ce qui fait que du coup, c'est aussi un travail. Enfin, c'est un travail qui est très intéressant pour le créateur et le compositeur lui-même. C'est-à-dire que moi, toutes les expériences que j'ai avec l'AI, ce sont pas des expériences comme user, mais c'est des expériences où je travaille avec la personne qui crée les modèles. Et donc, j'ai directement la capacité de pouvoir construire le modèle, inventer un modèle avec la personne qui va programmer ce travail-là. Donc, c'est assez différent des gens qui fonctionnent, qui utilisent des AI déjà fonctionnels ou faites déjà pour certaines choses de manière assez large. Nous, on les construit, on les crée pour certaines applications. Donc, je vais vous montrer un exemple du travail de... Alors, par exemple, ça c'est un travail d'un musicien qui s'appelle Jay Paul, qui est un musicien anglais très intéressant. Et donc, à chaque fois que je vais faire play, on va naviguer, on va revenir, il va y avoir une interprétation différente de son morceau. Mais cette variation, elle a été construite avec lui-même. C'est-à-dire que c'est pas... C'est vraiment un travail qui peut s'échelonner sur plusieurs semaines où tout d'un coup il va vraiment petit à petit au fur et à mesure des itérations essayer de contrôler vraiment la direction artistique de ce qui est produit par le modèle. Je vais vous faire écouter un exemple. Si si ça marche. J'arrête là, je vais passer sur le modèle sur Arca, comme ça on va revenir, après vous allez voir à chaque fois les différences. Ça c'est une autre variation d'un morceau d'Arca. Si je reviens sur Gepaul, on devrait normalement avoir une autre version complètement différente. Vous voyez ? Mais toutes sont adoubées par le compositeur en fait. Et donc ça devient un outil aussi qui permet soi-même de se libérer aussi peut-être des fois de certaines images qu'on a de son propre travail et de permettre d'établir une relation comme ça de travail avec cet outil qui devient un outil d'intelligence augmentée plus que d'intelligence artificielle en fait, qui devient une sorte d'assistant. Si je reviens là-dessus, vous allez voir la même chose sur... Donc ça c'est la première phase. La deuxième phase c'est qu'après on peut imaginer que comme ça devient un moteur, il peut aussi envoyer des informations de manière plus large, des informations sur, par exemple sur le montage d'un film. Donc c'est ce qu'on a fait avec Philippe Parreno. Je vais voir si c'est... Ah non, c'est pas ça, c'est ce travail-là. Donc ça c'est un film en fait, je peux pas vous le montrer puisque ce film par essence n'existe pas dans sa forme, puisque ce n'est qu'une variation. Donc en fait, c'est un film infini qui est construit avec, on va dire, une vingtaine ou une trentaine de couches. Bon, on le voit un petit peu, voilà, qui sont les couches de ce paysage, en fait. Ce paysage va en permanence varier. Et en fait, le montage son va en permanence aussi varier. Et donc, c'est un film qui peut être installé, qui avait été installé, là, je ne sais plus où c'était, mais pendant 6 mois, dans... C'était ça. Et en fait, le film est une variation, dure 6 mois comme ça. Donc l'idée, c'est que aucun des spectateurs ne voit la même chose. Donc il y a quelque chose d'intéressant, puisque a priori, c'est effectivement une œuvre d'art. En général, en moyenne, je crois qu'on reste 3 secondes devant un tableau au Louvre. Et puis c'est une forme relativement immuable. Là, l'idée, c'est un peu de prendre le contre-pied, c'est-à-dire que vous avez des gens qui restent des heures pour voir les variations de ces paysages. Et ils ne sont jamais les mêmes. Et puis il y a cette chose un peu assez intéressante d'imaginer que quand vous avez vu par exemple plusieurs personnes ont vu l'exposition et vont voir des choses complètement différentes. Donc ça va créer aussi un trouble sur ce que c'est que la réalité, la fiction évidemment, qui est le travail de base de Philippe Parreno. Après par exemple quand on a fait ça m'a aidé à faire l'installation, enfin le son de l'exposition Basquiat à la Philharmonie, où en fait, en général, on prend une timeline. Moi, c'est en général, même les expositions que j'ai faites depuis pas mal de temps, en général, celles que j'ai faites il y a une vingtaine d'années, il y a 5 ans, c'est essentiellement des timelines assez compliquées, avec, où en fait, on a toute l'installation avec tous les... On peut avoir des sculptures, des lumières, des ascenseurs, des films. Enfin, tout ça est mis sur une timeline. Et en fait, L'idée du travers, c'est toujours avec Philippe Parrainot, l'idée c'est de hacker le bâtiment, de prendre possession des lumières, de tout ce qu'on peut prendre, et puis d'en fabriquer une sorte d'être un peu vivant qui va réagir en fonction des fluctuations du nombre de gens dans l'espace, ou du temps dehors, ou tout un tas de variables qu'on peut faire entrer. Et là, dans le cas de l'installation sur Basquiat, la Philharmonie, on s'est aperçu très vite que la restriction, enfin, c'était une grande restriction d'avoir une timeline, parce qu'au lieu de pouvoir montrer, on avait un travail de documentation qui était extraordinaire, qui avait été fait. On avait énormément d'archives intéressantes, et tout d'un coup, au départ, les curateurs ont dit bah, malheureusement, il faut que ça tourne, donc toutes les demi-heures, il faut qu'on fasse une boucle. Et nous, on leur a dit mais c'est dommage, parce que c'est une telle richesse. Toutes ces informations, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir créer des variations. Donc en fait, avec l'équipe de curateurs, on a essayé de commencer à comprendre comment on pouvait créer des variations en termes de sens par rapport à l'histoire du travail de Basquiat, et de faire en sorte que cette chose soit assez vivante et que les statuts des sons et des images changent. Les images pourraient devenir... on va dire des arrière-fonds ou des images de premier plan. Les sons peuvent devenir les sons du film ou des off. Voilà. Donc, ce qui était tout à fait intéressant par rapport à l'idée du travail de Basquiat, puisque moi j'ai eu la chance de rencontrer une de ses amies proches à Los Angeles avant de faire l'exposition, et qui m'expliquait qu'à cette époque-là, à New York, Basquiat, il était dans son atelier, il écoutait à la fois, il mettait un disque, il y avait la radio qui était ouverte, la télé, la fenêtre était ouverte et on pouvait entendre les voisins. Enfin, qu'il y avait une sorte de comme ça, de diversité et de mélange, d'ailleurs, qui se retrouve dans un en parallèle l'historique de la création de la musique, du rap, et puis en même temps aussi le fait du travail des motifs qu'on peut revoir chez Basquiat, où on s'aperçoit qu'il y a plein de motifs qu'on retrouve dans des tableaux. De sous forme comme ça, très séquencée. Et donc, on a commencé à essayer de voir comment on pouvait créer des associations en permanence. Et donc, on a créé une sorte de... Alors ça, c'est le logiciel de Bronze, qui est en fait une sorte de... C'est très... J'ai pas de quoi vous montrer comment c'est fait, mais c'est vraiment une sorte de cloud en 3D gigantesque dans lequel il y a tous les médias, et à chaque fois il y a des connexions entre un peu neuronales entre chaque média et chaque autre média pour dire dans quel sens ça peut fonctionner, qu'est-ce que ça raconte, etc. Donc en fait on fait tourner, on met tous ces médias, on leur associe des idées avec des fonctions, et après on fait tourner les modèles et on essaie de voir comment on peut faire fonctionner tout ça. Et donc en fait du coup, c'était intéressant aussi, parce que pendant toute la durée de l'exposition, aucune personne qui est venue voir l'exposition n'a eu exactement la même vision, la même écoute des choses, ce qui est quand même intéressant, parce que c'est effectivement, le lieu est en New York, et on sait que s'il y a bien un lieu dans lequel l'imprédictible et justement l'émergence peut arriver, c'est vraiment une ville comme New York. Donc c'était aussi l'idée de retrouver quelque chose de... une sorte de déséquilibre et d'instabilité qui était aussi, et de richesse et de foisonnement qu'on pouvait avoir dans le New York des années 80, quoi, qui était vraiment un truc très particulier. Voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, où... voilà, et donc évidemment, beaucoup d'installations que je continue à faire avec Philippe Parrainot, en ce moment il y a une exposition qui est là pour 6 mois à Haus der Kunst à Munich, qui s'appelle Voices, où on a fonctionné de la même manière. Juste avant, on avait fait une installation au Leum Museum en Corée, où on avait encore travaillé. Enfin, c'est devenu maintenant un outil qu'on utilise pour toutes les installations et toutes les expositions qu'on fait, ce qui nous permet d'avoir une sorte de choses comme ça, presque, je dirais, vivantes. Hein. Effectivement, moi, je me rappelle que la première installation que j'ai faite de ce type, c'était au Palais Tokyo, il y a très longtemps, au même moment que l'exposition de Pierre Huyghe, là, ça doit faire une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Et j'avais quand même mis... Enfin, l'idée, c'était de travailler aussi sur la pollution des événements, des pièces, les unes avec les autres, dans l'immense surface du musée. Il m'avait fallu 6 mois d'écriture pour réussir à faire quelque chose de cohérent, quoi. C'était vraiment de la composition C'est vraiment compliqué. Et en fait, là, quand on a fait l'exposition Basquiat, qui était quand même, il y a quand même pas mal de choses. On devait avoir 500 musiques, 250 films. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. On a dû le faire en 15 jours. Voilà. Donc ça, là-dessus, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de pousser des choses de manière incroyable dans un temps relativement court. Voilà. Donc c'est vrai que si on avait dû me remplacer, enfin si, ça avait été, si j'avais dû le faire moi-même, ça aurait pris un temps de fou, quoi. Donc c'est vrai que pour moi c'est intéressant parce que travailler avec l'ex, ça me permet de gagner beaucoup de temps et puis aussi de faire plein d'essais aussi, hein, parce que là par exemple à l'exposition de Munich, c'est le modèle, c'est un film, donc c'est un film qui est en tournée en temps réel avec des caméras qui sont placées en Espagne. Et en fait, le film est en permanence en train de se tourner en temps réel. Et en fonction de la manière dont la qualité de la lumière, la capacité de détecter ce qui rentre dans l'image ou pas, en fait, le montage évolue et le son change. C'est-à-dire que c'est un objet un peu autonome, mais qui évolue selon des règles très précises qui sont définies par l'artiste en général. Voilà, c'est un peu. Il n'y a pas longtemps, dans l'exposition d'avant, on a travaillé avec David Peterson, qui est un linguiste au Berkeley, pour fabriquer une langue qui était basée sur les concepts aussi de Philippe Areno. Et c'était un peu la même, c'est le même genre de manière de voir, quoi. C'est un peu comme une sorte de langue, en fait. Hein, on invente un modèle de langue et on sait qu'une langue, c'est une chose qui est sous plein d'aspects, en liaison avec plein de questionnements qui peuvent un peu refléter le questionnement que peut avoir un artiste aussi sur ses propres créations. Donc ça, c'est une première partie. Donc je comment dirais-je, pour l'instant, Lex, il fait beaucoup de travail avec des artistes, des plasticiens, mais dans quelques mois, il va sortir ce logiciel qui s'appelle Bronze. Et donc, les gens vont pouvoir commencer à travailler avec. Voilà. Donc, pour l'instant, là, en ce moment, je crois qu'il fait un truc avec Radiohead. Avant, il a fait un truc avec. Je ne sais plus. Enfin, il y a beaucoup d'artistes d'assez haut niveau qui sont aussi très intéressés parce que c'est quelque chose. Quand on est curieux, on se dit toujours que peut-être d'avoir un outil qui favorise l'émergence de ses propres idées, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, bon, ça c'est la partie, on va dire. Ce qui est intéressant dans cette AI, c'est qu'à la différence de ce qu'on va voir après, c'est qu'il y a une forme de sémantique dedans. Alors qu'en général, l'AI, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de sémantique. C'est-à-dire que là, on crée du sens. Hein. Je veux dire, on a des modèles qui sont basés sur des idées et sur des concepts. Hein. Donc c'est assez particulier. Alors, par exemple, sur l'autre type de AI. Par exemple, text-to-speech. C'est vrai qu'avec Nicolas Aubin, qui m'a invité ici, on a fait il y a très longtemps, à l'époque où l'AI n'existait pas, on avait reconstitué la voix de Marilyn Monroe, pour un film de Philippe Areno aussi. Récemment, il se trouve que j'étais à Los Angeles il y a 2 ans pour faire travailler sur un film d'Alejandro Iñárritu. J'ai un ami producteur de musique et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Pierre Lanchantin, qui est effectivement aussi un ancien de l'IRCAM. Et qui donc, c'était le français un peu, moi j'étais français aussi, on a passé pas mal de temps dans cette période de 4 mois où j'étais à Los Angeles. Et du coup, on est devenus potes. Et il se trouve que lui, il travaille pour une start-up, et je crois qu'il fait la DA, enfin la direction R&D là-bas, sur tout ce qui est modèle de voix. Et donc ça, effectivement, ça commençait à m'intéresser. Et du coup, alors évidemment, il y a deux manières de s'y intéresser pour des questions économiques, c'est-à-dire par exemple pour faire des doublages moins chers ou pour faire tout un tas de choses qui permettent de dépenser moins d'argent. Mais bon, moi, c'est pas trop mon. Les business plans, c'est pas trop mon truc. Donc, en fait, moi, ce qui m'a paru très intéressant tout de suite, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut. Enfin, très vite, on a parlé des hallucinations, parce que, évidemment, ce qui est intéressant dans l'AI pour les artistes, c'est avant tout les hallucinations. Et donc. Très vite, on s'est amusé à créer des voix. Je vous ferai écouter après des bouts, mettre des voix, les mettre dans des chaînes de Markov ou des choses comme ça, et s'amuser à faire en sorte que ça parte un peu en sucette. Et du coup, c'est extrêmement différent parce que d'un côté, il y a le traitement, ce qu'est le traitement des voix. On sait que j'ai entendu parler du mot uncanny tout à l'heure, mais c'est effectivement ça. C'est un concept très important. Il y a cette capacité effectivement de faire des modèles. En fait, ça a commencé. Non, ça a commencé. Je faisais un album de musique et il se trouve que cet album était basé autour d'un texte de Francis Bacon, le philosophe, et qui était très intéressant. Et du coup, j'avais demandé à un ami de Johan Lesson, qui a été un acteur formidable, savoir si je pouvais faire un modèle de sa voix et pour pouvoir le faire chanter ensuite, faire plein de choses il aurait été bien incapable de faire. Et il m'a dit oui, donc on a fait un modèle de sa voix, et donc on a fait un album autour de sa voix, et j'ai oublié de le prendre, mais dans cet album, du coup, on retrouve sa voix sous plein de formes. Et ce cher ami est décédé il y a 2 ans, et du coup, c'était bizarre de se retrouver avec le modèle de sa voix, donc évidemment. Je suis allé voir son épouse et je lui ai demandé ce qu'il fallait que je fasse avec ça. Et du coup, on a convenu que j'avais le droit de l'utiliser encore dans la continuation de ce travail musical précis qu'on avait fait. Donc, c'était aussi tout d'un coup, je me retrouvais devant une des problématiques, une de ces nombreuses problématiques qui sont générées par l'utilisation de l'AI. Donc, moi, évidemment, à mon échelle, c'est facile à résoudre. J'étais à une conférence il y a 2 jours pour les gens de l'AFC, ou avec une juriste qui travaille sur l'IA et qui disait que c'était extrêmement compliqué. Tout ça, elle avait l'air extrêmement compliquée. Voilà, et du coup, j'ai commencé à m'amuser un peu avec ça. Et puis, on s'est intéressé avec ça aussi avec Philippe Parrainaud. Là, on tourne un film. Avec des acteurs, voilà, il y a des acteurs anglais, espagnols, américains, français. Et l'idée de base, c'est que c'est vraiment 2 personnes qui échangent leur voix. En fait, c'est 2 femmes qui échangent leur voix. Et au fur et à mesure, on garde les prosodies, mais on change les textures. Et donc, au fur et à mesure, on a fait les 2 modèles de voix. On a fait aussi chacune des femmes essayant d'imiter la prosodie de l'autre, chacune des femmes essayant d'imiter la texture de l'autre, pour avoir un maximum de matière la plus complète possible. Et après, on a fait tourner des modèles. Et on s'est aperçu, comme d'habitude, on s'est aperçu que c'est très ennuyeux. C'est-à-dire que ça fonctionne, en fait, pour l'instant, sur des moments assez courts. Mais c'était intéressant là de faire des essais sur la durée sur une durée assez grande. Donc c'est là où je reviens à l'idée de l'uncanny, c'est-à-dire que en fait ça fonctionne de manière incroyable. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'AFC, là, ils ont montré des films. C'était des réalisateurs qui venaient pour montrer leurs films faits avec l'AI. C'est que des formats courts, c'est que des choses très montées. Voilà. Donc c'est ça la problématique, c'est que en fait. Ça tient difficilement la route après 2-3 minutes. Au début, on trouve ça extraordinaire. Et après, il y a un moment donné d'effondrement. Mais c'est l'idée même du processing et d'utiliser une seule technique de processing. Moi, je m'en rappelle. C'est une des grandes théories de James Cameron qui dit qu'effectivement, si on utilise une seule technologie, très vite, le cerveau, il est quand même bien plus malin que l'AI, et que du coup, on comprend très très vite ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en général, c'est toujours plus intéressant d'avoir beaucoup plus de techniques que ça, de continuer à faire un mixage de techniques le plus ouvert possible. Et ça veut dire que quand même, plus la performance, enfin plus on va loin avec la performance de l'acteur dans le monde réel, mieux on est. Donc ça veut dire qu'à la fin, c'est un outil exceptionnel, extraordinaire, avec lequel on peut faire des choses qu'on ne pouvait évidemment pas faire, plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais voilà, il a ses limites, comme toute technologie. Et que du coup, pour moi, ça devient un outil. Alors là, je ne parle pas de l'AI au sens large et de ce que ça peut, enfin, ce que ça peut avoir de. Je reste dans le domaine, on va dire, le domaine artistique et le domaine de l'audio, parce que je pense qu'après, on est en ce moment dans un délire là où on imagine bien que ça peut générer des problèmes bien plus graves que ça. Mais en tout cas, dans mon travail, ça reste quelque chose de très ludique et d'assez intéressant, mais que je prends comme un outil parmi d'autres. Voilà. Je vais vous montrer là, par exemple, je vais vous montrer des exemples, des petits exemples. Je travaille en ce moment sur un film de Hugo Bienvenu, qui est un film d'animation très intéressant, que Cyril devait mixer, mais il y a un problème de date, que Cyril qui va venir, qui est un ami, qui va venir parler après. En fait, l'idée c'était qu'on avait un robot. En fait, c'est un monde un peu futuriste dans lequel la personne qui s'occupe des enfants, c'est un robot, et ce robot, il est à la fois la maman et le père. Donc évidemment, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est en faire un modèle de la mère, un modèle du père, et de faire varier les choses. C'est-à-dire en fonction des moments, il y a des moments où le personnage du robot qui est Mickey peut prendre la prosodie du père ou la prosodie de la mère, la texture du père ou la texture de la mère. Voilà, donc en fonction des. Voilà. Donc je vais vous montrer des petits extraits. Les vidéos, je suis désolé, sont vraiment de très mauvaise qualité, mais c'est des tests qu'on s'envoie. Voilà. Donc, parce que le film est en cours. Et je vous demanderai, bon, je vois que personne ne filme, mais comme c'est un film qui n'est pas encore sorti, si vous pouvez éviter de garder aucune trace visuelle de ce film-là, parce qu'autrement, je vais me faire taper sur les doigts.
Vous êtes prêts? On m'a dit qu'il y avait des nouveaux dans l'Ouest. Deux brigands de la pire espèce, surtout la fille. Une certaine Blackie Jones, aux ongles aussi acérés que les serres d'un vieux perroquet. Tous les shérifs sont à sa recherche, mais c'est moi qui la trouverai.
Ça, c'est une version. Je vais vous montrer. C'est plus le fait d'écouter différentes versions. Vous allez voir comment en fait ça module.
Vous êtes prêts? On m'a dit qu'il y avait des nouveaux dans l'Ouest. Deux brigands de la pire espèce, surtout la fille. Une certaine Blackie Jones, aux ongles aussi acérés que les serres d'un vieux perroquet. Tous les shérifs sont à sa recherche, mais c'est moi qui la trouverai.
Voilà ce qui est stupéfiant pour les gens qui connaissent le son et la manière de faire le son, c'est la synchronicité. C'est-à-dire que du coup, comme c'est les mêmes modèles, on peut vraiment fabriquer des choses qui sont absolument parfaitement synchronisées en phase et qu'on peut du coup changer le curseur. Hein. Après, voilà, donc c'est assez. Alors là, évidemment, vous allez me dire, il y a un côté robotique dans la voix, mais c'est parce que c'est un robot. Hein. Donc c'est quelque chose qui est une autre partie du traitement du signal. On est reparti sur des vieux voice coders des années 70, etc. Parce que Hugo Bienvenu aime beaucoup le côté vintage. Voilà. Donc du coup, il y a un côté un petit peu, on va dire, vintage dans le traitement du robot.
Vous êtes prêts? On m'a dit qu'il y avait des nouveaux dans l'Ouest. Deux brigands de la pire espèce, surtout la fille. Une certaine Blackie Jones, aux ongles aussi acérés que les serres d'un vieux perroquet. Tous les shérifs sont à sa recherche, mais c'est moi qui la trouverai.
Voilà, puis dernier. Je vous passe le dernier.
Vous êtes prêts? On m'a dit qu'il y avait des nouveaux dans l'Ouest. Deux brigands de la pire espèce, surtout la fille. Une certaine Blackie Jones, aux ongles aussi acérés que les serres d'un vieux perroquet. Tous les shérifs sont à sa recherche, mais c'est moi qui la trouverai. Vous voulez qui maintenant? Vous êtes prêts?
Donc ça, c'est une version relativement stable, mais après, l'idée, c'est qu'on a du coup une interface et que pendant le mixage, on peut passer de l'homme à... Voilà, on peut, en fonction des moments, changer le curseur. Et donc ça, on va s'amuser à le faire avec le réalisateur qui, lui, va avoir on va lui donner un curseur et il va pouvoir s'amuser en fonction des moments voilà, d'être plus ou moins féminin, masculin. Voilà, sachant qu'on a déjà fait une présélection où il y a des endroits où c'est la prosodie de la mère avec la voix de le père et d'autres endroits où c'est la prosodie du père avec la voix de la mère. Donc on a déjà fait ces changements-là. Mais après, on va quand même s'amuser un peu à changer un petit peu on va dire les équilibrages. Voilà. Donc ça, c'est sur cette partie-là. Après, on est parti sur le film de Parano. Du coup, on va explorer. Donc là, c'est intéressant de voir sur la durée d'un film, d'un long métrage où il y a beaucoup de dialogues, qu'est-ce qui va en rester. Voilà. Donc, et puis voilà, qu'est-ce qui va en rester? C'est-à-dire que est-ce que c'est des moments de glissement pour passer de step à d'autres, ou est-ce que c'est un glissement très léger sur l'ensemble du film, ou est-ce que c'est des retours au réalisme? Enfin, on est en train de travailler dessus, donc voilà, mais évidemment, on demande aussi les actrices sur le tournage à essayer d'imiter à essayer de s'imiter les unes en les autres. C'est-à-dire à chaque fois qu'une scène est tournée, on leur demande aussi de faire des sons seuls et d'essayer d'imiter l'autre en leur faisant écouter la tech dans l'oreille, dans un petit écouteur dans l'oreille. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Moi, je ne sais pas où sur quoi on va tomber, mais en tout cas, très certainement, il y aura des choses très intéressantes à utiliser et puis des choses qui seront moins invalides. Oui, je repensais à cette idée de uncanny et cette idée de fatigue du cerveau. Je me rappelle de Cyril du film Panic Room, où c'était la première fois qu'il y avait une réverbération en 5 plus 1 qui était utilisée sur un film. Et donc, moi, je me rappelle avoir été ébahi les 5 premières minutes en disant: Oh, les algorithmes, ils sont fous, c'est magnifique, etc. Et au bout de 10 minutes, de m'ennuyer profondément. Donc, il y a toujours ce côté un petit peu voilà, déceptif, et à la fois extraordinaire et en même temps un peu déceptif. Donc, je pense qu'il faut prendre ça comme un. Voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, je prends ça comme un outil comme les autres. Et encore une fois, c'est ce qu'on va écouter là. Il se trouve que dans l'histoire de l'audio et surtout de l'histoire de la musique, il y a beaucoup d'effets qui ont été en fait des erreurs. Hein. La distorsion, le délai, les reverbs, les feedbacks. Il y a plein de choses comme ça qui sont devenues des outils de coloration du signal qu'on aime beaucoup, mais qui sont au départ des erreurs, viennent souvent d'erreurs de manipulation ou entre guillemets de problèmes générés par des machines qui marchent mal, etc. Et donc c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand on demande aussi aux AI d'halluciner, et ben, il y a des choses intéressantes qui se produisent. Et là, j'ai terminé par ça, par des petites choses qu'on a faites. Ah oui, non, ça c'est intéressant aussi. Excusez-moi, j'ai encore des petites choses. Je ne sais pas quelle heure ça va, j'ai un peu de temps encore. Alors évidemment, on s'est dit, comme on avait fabriqué le robot principal comme ça, on s'est dit ça peut être marrant de faire les robots secondaires avec des voix, encore une fois, un peu à l'ancienne.
L'univers, tout comme les êtres vivants, est né un jour. Ce jour a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années dans un grand flash lumineux qu'on appelle le Big Bang. Avant cet instant, le temps et l'espace n'existaient pas.
Voilà, c'est dit. Pas facile à reconnaître parce que c'est Henri Salvador jeune, mais là vous allez voir, c'est Jeanne Moreau, ça va être plus évident.
L'univers, tout comme les êtres vivants, est né un jour. Ce jour a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années dans un grand flash lumineux qu'on appelle le Big Bang. Avant cet instant, le temps et l'espace n'existaient pas. À sa naissance, l'univers ne pesait.
L'univers, tout comme les êtres vivants, est né un jour. Ce jour a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années dans un grand flash lumineux qu'on appelle le Big Bang. Avant cet instant, le temps et l'espace n'existaient pas.
Marguerite Duras, si.
L'univers, tout comme les êtres vivants, est né un jour. Ce jour a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années dans un grand flash lumineux qu'on appelle le Big Bang.
Bonjour mademoiselle, on nous a signalé un bug de votre nannybot, Mickey, pas, numéro de série 28976. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Il est dans le salon.
C'est vous pouvez nous dire ce qui s'est passé exactement?
Bah, je sais pas trop.
Bonjour mademoiselle, on nous a signalé un bug de votre nannybot, ça, Mickey, numéro de série 28976.
Sur le côté, s'il vous plaît.
On était envoyé en urgence. Ça, c'est Bernard T, je sais plus, c'est un...
Vos papiers, s'il vous plaît.
Ah oui, mes papiers, oui, bien sûr.
Là, vous allez reconnaître aussi, je pense.
Sur le côté, s'il vous plaît.
Jacques Chirac.
On était envoyé en urgence. On est au médecin.
Vos papiers.
Voilà, y a James
sur le côté, s'il vous plaît.
Ah non, c'est James E, c'est le type qui faisait la voix de...
On est au médecin.
Vos papiers, s'il vous plaît.
Ah oui, mes papiers, oui, bien sûr.
Dark Vador. Meryl Streep.
Sur le côté, s'il vous plaît.
On était envoyé en urgence. On est au médecin.
Vos papiers, s'il vous
plaît. Voilà, je vous remets Jacques Chirac parce que moi j'ai.
Chef, l'équipe 12 a appelé. On a un problème. Des individus se seraient infiltrés à l'intérieur de l'école.
Il y a deux enfants sous ma responsabilité à l'intérieur. Je dois entrer.
Laissez-le passer. Nous ne pouvons pas rentrer. Nous allons activer les équipes sur place.
Voilà, donc ça, c'est du coup, ça devient assez ludique, en fait. Bon, alors, après, évidemment, on ne va pas les garder telles quelles, puisqu'on va les hybrider avec les vrais acteurs. Enfin, les acteurs qu'on fait chaque rôle, donc on va être dans l'hybridation un petit peu encore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous faire écouter voilà, elles sont là. Alors, justement, quand je vous disais qu'on pouvait s'amuser un petit peu, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on fait ce qu'on appelle, moi je ne suis pas assez bon en mathématicien pour vous dire ce que sont les chaînes de Markov, mais on va dire qu'il y a une des capacités de l'AI à fonctionner sous des modes d'apprentissage, quoi, qui sont selon des chaînes de Markov, et du coup, ça donne des choses assez étranges. Et il y a beaucoup de choses que vous allez écouter qui sont devenues une partie des sons, des sortes de sculptures ou d'installations de Phil Parrano dans cette nouvelle exposition qu'il a à Haus der Kunst à Munich. C'est un peu loin, mais c'est vraiment une exposition super. Je vous fais écouter un peu des choses. Je vous passe un peu des choses parce que... On peut s'amuser à faire aussi des trucs assez marrants qu'on a fait nous pour un autre projet que j'ai pas amené ici, mais on prend des langues, on enlève le lexique par exemple. Ça c'est assez drôle aussi. C'est-à-dire vous avez des gens qui parlent anglais, un anglais parfaitement, mais vous comprenez mais rien. Voilà. Et donc c'est assez drôle. On peut s'amuser beaucoup quoi. C'est un peu crypto. Je vais changer. L'aspect où on entend le traitement, de toute façon, moi, c'est pas un truc qui me. Ça participe à l'uncanny ou à l'étrange. Hein, donc, moi, ça me dérange pas. Il y a un truc qui est très bizarre, c'est que c'est extrêmement déformé, mais en même temps, c'est tout à fait une voix. Alors que souvent, dans les technologies d'avant, ça ressemble toujours beaucoup, peut-être même plus qu'une voix que ça, mais c'est pas une voix. Voilà. Donc il y a un truc quand même qui est assez fascinant avec ces technologies, c'est que la première sensation, c'est vrai. Même si ça fait des trucs hyper bizarres, quoi. Et donc ça, c'est assez... Alors après, moi, je suis presque plus intéressé par ça que par demander à un acteur de... Enfin, reconstruire le modèle d'un acteur. Moi, je trouve ça plus intéressant d'entendre des choses comme ça. Et d'ailleurs, en fait, dans le film, du coup... On a créé des textes comme ça, des moments où les personnages voilà, sont ailleurs comme ça. Comme c'est un film sur les rêves et sur la disparition du personnage principal qui devient un paysage, enfin c'est un truc un peu abstrait. Je sais plus ce que c'est ça, mais... Ça va loin, mais... Après, on travaille avec des... Là, on a traité avec Isabelle Sörling, qui est une super chanteuse suédoise. Donc, on va en studio, on fait vraiment des enregistrements assez... de très très bonne qualité, et on obtient des choses... Et il y a toute une installation... qu'on a fait avec Philippe, c'est essentiellement des speakers paramétriques qui se déplacent avec des bruits de bouche comme ça, c'est extrêmement beau. C'est effectivement, on fait un travail musical sur le film qui va être assez poussé, où en fait on enregistre avec un type qui s'appelle Adam Har Horowitz, qui est un des mecs à la tête de la neuroscience au MIT. En fait, on s'amuse à enregistrer toutes les datas des rêves des actrices pendant le tournage, et en fait on en fabrique une sorte de on fait une sonorisation de ça avec lui pour que ça ait du sens, et ensuite ça va être la base musicale du travail qui va être fait à partir des modèles des voix des acteurs, qui vont générer des choses comme ça assez étranges. Et puis du coup ça, on va le repasser dans pour ceux qui connaissent Mélodine, ce qui va nous permettre d'avoir en fait une sorte de structure musicale. Et on va retravailler à la fois avec des musiciens anglais et aussi un orchestre pour pouvoir retravailler les contours en fait de cette sorte de matrice qui va être faite par les voix et les rêves. Voilà. Donc en tout cas, tout ça pour dire que moi je suis à la fois, pour terminer, que je suis très très... intéressé par ça, parce que je suis toujours intéressé par les choses nouvelles. Je sens qu'il y a encore, bon, enfin, il y a plein d'autres applications qui existent, énormément d'applications qui existent dont j'ai pas parlé, qui sont aussi très intéressantes, formidables, etc. Mais je suis pas là pour parler de ça. Je suis plutôt vous partager plus mes expériences avec l'AI plutôt que vous parler de l'AI en général. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore du temps ou c'est fini ou si.
On peut finir là.
Et voilà. Et ben voilà. Je vous remercie.